Bonjour et bienvenue à Regards Creusés avec Fulgence Blanc
et Arlette Farah.
Oui, c'est la première émission après la longue fin de semaine.
Oui.
Ouais, la longue fin de semaine. Nous avons des invités aujourd'hui, ils ne sont pas seuls en studio.
Oui.
Même si on les reçoit à travers le téléphone, c'est comme s'ils étaient avec nous en studio. Bonjour Arlette.
Bonjour Fulgence.
Oui. Comment vas-tu?
Bien. Ouais. On parle de nos invités?
Ah oui,
respectifs.
Vas-y.
Qu'est-ce que... Je te laisse faire la première demi-heure.
Oui, ouais, oui, c'est, il était programmé pour la première partie de l'émission, Samian.
Ouais.
Oui, notre Samian national. Il est maintenant
excellent,
international. Il a parcouru le monde entier. Il va nous parler de son parcours à lui et puis bon, ben, de la situation actuellement qui prévaut concernant la communauté. Il est très engagé, hein,
oui.
La communauté, les différentes communautés autochtones. Donc Samian sera avec nous après ça. Une première pièce musicale de lui d'ailleurs.
On entendra tout à l'heure. Moi,
voilà.
Je vais recevoir en deuxième demi-heure Denis Martin Chabot pour sa chronique LGBTQ+. Et puis, nous aurons une invitée, André Tessier, qui est cartomancienne. Donc, on va parler avec elle, le jeu de tarot. Voilà. Donc, on démarre avec quelle pièce de Samian?
Génocide.
Voilà.
C'est tout nouveau, c'est tout cru. Il y a quelques jours, il a mis sur le web, c'est sorti. C'est tout nouveau, ça sent encore du
d'accord.
Samian. Génocide.
Encore une fois, au nom des miens, je reviens sur le tempo. Tant pis si t'aimes pas, moi je les aime trop. Toujours le même combat, avec des mots je débat. Contre leur politique de merde et leur secret d'état. Les couteaux volent bas, chez moi pour mourir, les oiseaux ne se cachent pas. Non, non, y a plus d'un peuple qui crie à l'aide. Québec, Canada, sous un régime d'apartheid. Nani Goudin, Kita Sosonan, Guine Gyoji Tawan, Wani Higan, Misawash Nipaguyan, Taguana Yamyewen, Kichina Kachi Higuan. Tu l'ignores, ça ne veut pas dire que t'es ignorant. À l'école, on t'apprend qu'ils ont découvert un continent. La vérité est parfois dure à entendre, c'est pour ça qu'ils la cachent depuis plus de 150 ans. J'en ai marre des mensonges, marre d'hypocrisie, j'en ai marre des taches de sang sur le drapeau de mon pays. Sous la tutelle gouvernementale, on ne vit pas dans le même monde. Des réserves indiennes, pauvres comme le tiers-monde, on parle de l'Holocauste, du Rwanda, des millions de morts au Congo. En Amérique du Nord, c'est un génocide au compte-gouttes. Nos dirigeants veulent des Indiens inscrits, car ils ont peur des Indiens inscrits. Nani Goudin, Kita Sosonan, Guine Gyoji Tawan, Wani Higan, Misawash Nipaguyan, Taguana Yamyewen, Kichina Kachi Higuan. Au nom des enfants vendus et déracinés, au nom des femmes disparues et assassinées, des femmes ligaturées à leur insu, un génocide bien planifié et ça continue. Enfants des Britanniques au sens de la loi sur les Indiens d'un pays sans foi ni loi. Pour eux, nous ne sommes qu'un sujet, des prisonniers politiques au nom de Sa Majesté. 69 et leur putain de livre blanc, ou plutôt comment se laver les mains avec le sang des innocents. Ils ont rêvé d'une Amérique blanche, des assassins imprimés sur leur billet de banque. L'interdiction de parler nos langues, c'est un génocide. Tuer l'Indien à l'intérieur de l'être humain, c'est un génocide. Voler et vendre des enfants, c'est un génocide. Les femmes autochtones disparues et assassinées, c'est un génocide. La Constitution canadienne est un génocide. Nani Goudin, Kita Sosonan, Guine Gyoji Tawan, Wani Higan, Misawash Nipaguyan, Taguana Yamyewen, Kichina Kachi Higuan. Nani Goudin, Kita Sosonan, Guine Gyoji Tawan, Wani Higan, Misawash Nipaguyan, Taguana Yamyewen, Kichina Kachi Higuan.
Samian Génocide. On l'a déjà au bout du fil. Bonjour Samian.
Bonjour.
Comment allez-vous?
Bonjour.
Comment allez-vous?
Super bien, merci.
Merci d'avoir eu le temps de répondre à notre appel, à notre invitation pour prendre part à cette émission et nous parler un peu de ton parcours.
Magnifique chanson.
Oui, très belle pièce.
Très belle. Vraiment.
Et puis, Samian qui ne porte pas un seul chapeau, il porte plusieurs chapeaux, il ne fait pas seulement de la musique, il est photographe, il a un documentaire qui est en marche du monde, qui passe aussi sur les ondes de TV5, et il dit, mais qu'est-ce qu'il ne fait pas lui?
Beaucoup de choses
à la fois. Alors, ce morceau qu'on vient d'écouter là, il est tout frais là?
Ouais, ben il est tout frais, c'est quand même... C'était écrit... En fait, j'aurais aimé le mettre sur mon dernier album, Le Messager, qui est sorti l'année dernière, mais j'avais pas encore trouvé l'angle. J'avais pas trouvé la façon, peut-être, de l'apporter. Puis, dans les dernières semaines, les derniers mois, j'ai commencé tranquillement à enregistrer mon prochain album. Puis, cette chanson-là, j'avais terminé de l'écrire et j'avais trouvé, finalement, l'angle. Mais... Des fois, les circonstances nous dépassent et avec tout ce qui se dit en ce moment et la parole des politiciens qui ont peur de nommer les vraies choses, je me suis dit, arrêtons de jouer avec les mots et c'est le temps de mettre cette chanson-là en avant. Puis, j'avais pas envie c'était pas dans mes plans, c'est juste... Écoute, les circonstances, des fois, c'est ça. C'est plus fort que ce qu'on écrit, que ce qu'on fait comme art. Donc, je me dis, c'est là ou jamais, en fait.
C'est là ou jamais, oui, il fallait le faire. Et c'est sincèrement, et puis la vidéo, très belle vidéo, merci. C'est vraiment, quand je vois les images, la vidéo, je suis resté scotché sur ma chaise, je me suis dit, waouh, quel professionnalisme. Au fait, voyez,
merci.
Qui est derrière cette vidéo-là?
Je suis avec Francis DiSalvio, qui est aussi un réalisateur, photographe. On est un peu dans la même branche tous les deux. On aime l'esthétique, justement, des régalias, tout le concept autochtone. Donc, avec Francis DiSalvio, on a tout simplement co-réalisé, on a co-produit ensemble et on a appelé nos amis Jeffrey Papati, Megis Ottawa, qui est de la communauté du Lac-Simon. Megis est de la communauté d'Obidjouane. Ça s'est fait rapidement parce qu'on s'est dit avec la maison de disques, avec Musique Nomade, on s'est dit on veut la sortir telle date. Donc, dans la même semaine, le vidéo s'est tourné, la chanson s'est enregistrée en studio, mixée, mastering, montage vidéo et c'était prêt le jeudi soir pour vendredi dernier. Donc, ça a vraiment été une mobilisation incroyable de gens qui ont dit, on va mettre le message en avant de tout. T'sais, on va prendre quelques jours, mais ça a vraiment, vraiment paru. Il y a eu une super de belle énergie au tournage et ça se ressent aussi quand on regarde la vidéo.
Ça se ressent dans l'image. Voilà, là, on revient à ta carrière musicale, bien sûr. Mais le hip-hop, le rap, je ne sais quoi, on peut l'appeler comme on veut, est-ce que c'est le genre de musique dont Samian avait besoin pour s'exprimer, pour être le porte-parole des sans-voix, des opprimés, de la communauté?
Oui, parce qu'à la base, le rap, la signification, c'est rhythm and poetry. Donc, pour moi, c'est la base même de ce qu'est le rap. Je veux dire, si on peut pas négliger autant le rythme et on peut pas négliger non plus de la poésie. Si on en néglige un ou l'autre, j'ai l'impression qu'on passe à côté. Mais c'est vraiment un film, Shackletown, ce film-là m'avait marqué d'un jeune qui se ramasse en prison et qui découvre à travers la poésie, découvre le slam. Et moi, ça j'ai vraiment eu un coup de conscience, en fait, quand j'ai entendu du slam la première fois de ma vie. Et j'ai su que c'était une façon mais j'ai grandi avec la culture hip-hop, la culture rap, et ça allait tellement bien ensemble que, en fait, pour beaucoup de rappeurs, je suis un slameur, et pour beaucoup de slameurs, je suis un rappeur. Donc, la ligne est mince entre les deux.
La ligne est très mince parce que je connais des gens qui sont slameurs aujourd'hui mais qui sont partis du rap. Ils étaient rappeurs, ils se disent slameurs maintenant. La ligne est très mince comme vous le dites d'ailleurs. Et puis d'ailleurs, j'ai eu quelques poèmes de votre recueil qui étaient sortis avec les trois premiers albums. On te fait un clin d'œil au Mémoire d'Encrier qui vous a édité d'ailleurs. À l'époque, pour ceux qui ne l'ont pas encore lu, allez-y, courez là-bas pour l'acheter. C'est très, très, très intéressant. Alors, Samian, le prochain album, il nous vient quand?
C'est dur à dire parce que j'étais en plein processus. En fait, en ce moment même, je suis à la maison. Évidemment, les tournages ont repris. Donc, en ce moment, je commence demain matin un film, un autre long métrage, donc dont j'ai le privilège d'avoir le premier rôle. Donc, je vais être là-dessus pour un petit bout. En marche du monde 2 et recommencer aussi. Donc, j'étais en processus de. Donc, c'est sûr que on a juste voulu sortir cette chanson-là vite.
Oui.
Ben vite, on l'a pas botché. Elle était déjà écrite, mais on l'a annoncé plus vite que prévu. Mais l'album, d'après moi, j'avais 2021 en tête. Je pensais même sortir Génocide début 2021, mais les autres chansons sont enregistrées. Je suis encore en train de les peaufiner. Il y en a peut-être une ou deux que j'ai encore envie d'explorer. Donc, je peux pas donner de date parce que, comme vous avez dit au début, tu sais, j'ai plusieurs chapeaux et j'essaie des fois de me diviser entre le cinéma, la télévision et la musique, mais
oui.
Et j'ai envie aussi de faire les choses et de bien les faire. Donc, quand je serai plus en tournage, comme je le suis en ce moment d'ici la fin de l'année, mais début 2021, je vais pouvoir probablement mettre toute mon énergie sur la sortie de cet album-là.
Oui, le tout dernier, le messager, comment il marche? Il se porte bien? Ça se vend bien?
Ça porte très bien jusqu'à temps qu'on ait eu une annonce d'une pandémie mondiale. Le Messager reste un album qui a été écrit en fait d'avant. C'est en 2017, on était prêt. Il y avait eu, moi, j'avais juste un ras-le-bol de l'industrie de la musique. Ça avait vraiment été. J'étais plus sûr. Est-ce que je voulais continuer? Donc j'avais tout retiré pour me dire, écoute. J'ai envie de faire cet album-là. J'ai travaillé avec DJ World pour le faire. On voulait juste une voix, un MC, un DJ, des scratchs,
oui.
Très hip-hop, old school. Et on avait envie de le faire. Puis on le fait pour s'amuser. Et il y a beaucoup de tournées, de conférences qui se sont ajoutées. J'étais booké pour un an. Donc évidemment, tout ça est tombé à l'eau.
Tout ça est tombé à l'eau, pandémie oblige.
C'est pas tombé à l'eau, c'est repoussé.
Ben, c'est repoussé dans l'incertitude, par exemple. Ça avait été repoussé pour février 2021 et déjà février 2021, il y a déjà des écoles, il y a déjà des salles de spectacle qui nous ont fait reculer encore en nous disant c'est pas sûr.
Donc, malheureusement.
Donc on est tous dans la même situation et on peut pas faire autrement pour l'instant. Donc il y a d'autres options et je me sens vraiment, je remercie Dieu chaque jour parce que je peux faire du cinéma, je peux faire de la télévision.
Et, oui, oui.
Et je pense à mes collègues qui font que de la musique.
Que de la musique, oui, oui.
Et que ça peut être extrêmement difficile quand, tu sais, l'été, la saison estivale était leur gagne-pain pour souvent l'année complète, mais il y en a qui ont tout perdu. Donc, c'est là où ça devient vraiment, vraiment plus difficile.
C'est là l'avantage de porter plusieurs chapeaux. Hein?
Exactement, ouais. Exactement. Je suis vraiment béni, puis j'ai le privilège de faire ce que j'aime quand même. Puis ça ne nous empêche pas d'écrire, ça ne nous empêche pas de travailler sur des chansons, de travailler en studio et tout, mais
c'est ça.
Je pense qu'il faut... c'est ça, j'ai vraiment une bénédiction en ce moment, puis je suis béni.
Ouais. Samian, comment on se sent quand on fait partie de la communauté et qu'il y a une de nos sœurs qui... Je parle de Joyce, qui s'est filmée à ses dernières minutes de vie. Et quand on voit des images comme ça, et puis, comment on se sent?
Joyce a été l'arbre devant une énorme forêt. C'est incroyable ce qui s'est passé. Et puis, je pense que grâce en fait à la technologie, on a pu enfin mettre une image et des mots sur ce qui dure depuis une centaine d'années dans notre pays. Ma grand-mère, dans son temps, elle, les hôpitaux, en fait, c'était un endroit où nos enfants n'en sortaient pas, ou peut-être même les propres personnes concernées qui se rendaient dans les hôpitaux à certaines époques n'en sortaient pas vivants et on pouvait même pas retracer le corps de nos familles, on pouvait même pas. Donc, ça existe depuis extrêmement longtemps. Des propos comme on entend dans la vidéo, c'est des choses qu'on a déjà entendues maintes et maintes fois. Puis, je pense que ça a choqué le monde. Et des fois, ça prend des tragédies, malheureusement, pour pour mettre un terme à certaines choses ou justement où ça sert de point tournant aussi peut-être.
Oui.
Et j'ai l'impression que c'est le cas en ce moment. Il y a une mobilisation sociale de au Québec qui est énorme.
Qui est énorme, oui.
C'est énorme de tous les communautés, de peu importe l'orientation politique, religieuse, ethnique, il y a un rassemblement et il y a une écœurantite aiguë aussi de la situation des conditions de vie des Premières Nations. Et puis, si ça a pris une tragédie, en tout cas, je ne veux pas dire que ça a servi.
Pour avoir un éveil de conscience.
Exactement, ça en a eu un, puis ça, on l'a eu très, très, très fort. Et ça a été, c'est encore dur à imaginer, tu sais, quand on a vu la vie, moi je l'avais vu la journée même, et puis ça a chamboulé beaucoup de choses dans ma vie,
oui.
Mais c'est ça, c'est une réalité, et elle a été mise en lumière grâce à la technologie, donc même chose quand on regarde aux États-Unis avec George Floyd, je veux dire, aujourd'hui la technologie permet justement de, on peut plus fermer les yeux sur certaines situations. Et voilà, ça met beaucoup, beaucoup de mots de notre société en lumière, en fait.
Est-ce que Samian est en colère?
Je suis pas en colère. Je suis plus triste que d'autres choses. Je pense que la colère, elle est saine. Il faut être capable de la maîtriser, je pense. Et je pense que quand je suis allé en studio pour enregistrer Génocide, même si elle était écrite, même si j'avais une maquette que je l'avais déjà entendue, je l'ai pu interpréter de la même façon.
Oui.
Et le jour que je vais remonter sur scène, je ne vais plus jamais l'interpréter de la même façon non plus.
Okay.
Alors oui, il peut avoir il y a eu une certaine colère, tristesse, mais j'ai toujours rappé avec cette rage dans l'abdomen qui me suit depuis mon tout premier album. Donc, j'ai l'impression d'avoir ramené ça je pense, de 15 ans de métier. Ça fait 15 ans que je fais ce métier-là. Et puis, quand je suis allé en studio, la semaine que la chanson est sortie, j'ai eu cette rage-là qui m'a servi, en fait.
OK. Alors, et la photographie, comment elle se porte?
Très bien. C'est un mélange de, ben, de le vidéoclip, en fait. Ça en est un exemple. Je pense de plus en plus à la vidéo, la photo. À force de faire du cinéma, à force de faire du documentaire... je regarde beaucoup travailler les directeurs photo avec qui je travaille, ça m'anime, je veux dire, la photographie, c'est d'abord et avant tout une façon d'écrire aussi de la poésie, donc je trouve ma signature comme ça à travers la photo, à travers la vidéo, je pense que j'aime jouer avec la lumière, j'aime jouer avec le portrait surtout qui me nourrit, mais voilà, je pense que j'ai trouvé une autre façon d'écrire. Et de me cacher aussi, peut-être, c'est un métier un peu plus solitaire, mais voilà, chaque photographie reste un poème, et c'est ce qui m'allume à faire de la photo.
C'est de la poésie en images.
Exactement.
Voilà.
Ouais. La photo parle.
Oui, c'est ça, Samian. La série documentaire, de quoi ça parle au fait? Moi, je ne l'ai pas encore regardé, je ne suis pas encore tombé là-dessus.
En marge du monde, ben écoute, en ce moment, je pense qu'on rediffuse encore la saison 1 parce que bon, il y a eu des retardements, mais
oui, parce que j'ai vu votre pub là sur TV5 d'ailleurs.
Exact. Ben, on a commencé la saison 2, je suis arrivé hier soir, mais En marge du monde, c'est des gens qui pas tant des marginaux, parce qu'En marge du monde, c'est pas tant porté sur des marginaux, mais des gens qui sont vraiment à côté du système qu'on nous propose. Je veux dire, c'est des gens c'est pas des gens qui nous vendent un mode de vie, c'est des gens qui incarnent un changement. Et on embarque, on n'embarque pas. C'est ça qui est vraiment, vraiment fascinant, mais ces gens-là remettent tellement de choses en perspective dans ma propre vie. Moi, je l'anime, je passe une semaine avec eux dans leur mode de vie. Là, j'étais à Chibougamau, dans le nord. Il faisait froid, il y avait de la neige. Et puis, là, je revenais à Laurentide hier. Mais c'est vraiment une toute autre réalité. C'est des gens qui vont dans un rythme différent. Et puis, il y a toujours cette fameuse phrase que j'ai lue dans un livre plus jeune qui disait qu'il y a juste les poissons morts qui suivent le courant. Et ces gens-là sont tellement vivants qu'ils se feraient un autre chemin pour arriver dans leur idéal à eux. Et ils nous le proposent aussi. Donc, ils nous montrent que beaucoup de choses sont possibles, qu'il y a plusieurs avenues pour choisir son mode de vie.
Oui, puis, oui.
C'est ce que je trouve magique de cette série documentaire.
De cette série, là, de ce documentaire. Enfin, Samian ne chante pas seulement en français, il chante en algonquin. Comment se porte la langue algonquine?
Ben, c'est une langue
pour la nouvelle génération.
Pour la nouvelle génération, c'est très difficile. C'est très anglophone. C'est très divisé en français et anglais. Donc, les communautés d'Abitibi, on est francophones. Les communautés d'Outaouais sont beaucoup plus anglophones. C'est une langue qui est menacée, qui est malheureusement. C'est des langues quand même de bois. C'est des langues de forêt. C'est des langues qui évolue aussi au rythme de la technologie et tout. Donc, même la langue doit se réinventer, doit réinventer des nouveaux mots tout le temps. Mais j'ai encore, moi, ce privilège-là de... Et aujourd'hui, comme on en parlait tantôt, la technologie est un outil hallucinant parce que si j'ai besoin de conjuguer une phrase que je vais mettre dans une chanson, je le texte à ma grand-mère. Et ma grand-mère me répond. Et c'est comme ça que je la réapprends, moi.
C'est votre traductrice, quoi.
Ben oui, carrément, depuis toujours, en fait. J'ai grandi en français. Mon arrière-grand-mère, que j'ai eu le privilège de connaître, mon arrière-grand-père aussi, parlait pas français ni anglais. Donc, c'était quand on était enfant, on entendait seulement l'algonquin, mais il y avait cette gêne-là de leur répondre, ou souvent on leur répondait en français, puis. Mais ma grand-mère, encore aujourd'hui, si on est dans un lieu public, elle va juste me parler en algonquin pour des fois même me rendre mal à l'aise et me montrer que je me dois aussi de lui répondre en algonquin. Donc, c'est ça, mais évidemment, je suis avec ma famille, on habite dans les Laurentides, on grandit dans un milieu francophone, et puis une langue, pour la garder vivante, c'est une famille, c'est un quotidien, c'est tout ça. Ma femme est québécoise. Donc, c'est vraiment difficile. C'est vraiment difficile de garder une langue vivante si on la parle pas tous les jours, puis oui. Si on n'a pas ce privilège-là. Mais je me considère quand même chanceux aujourd'hui de pouvoir envoyer, d'appeler ma famille, puis de dire hey, comment je pourrais dire ça, de quelle façon je pourrais le dire. Et,
oui.
Et ma grand-mère qui a toujours été là, ma grand-mère qui en fait, elle me corrige aussi sur ma prononciation. Donc, quand je travaillais sur mes précédents albums, elle écoutait mes maquettes dans sa voiture au centre-ville à Amos, les fenêtres baissées, elle écoutait du gros rap. Puis, c'est une grand-mère cool, tu sais, qui me rappelait en me disant ah, tu pourrais peut-être le prononcer de cette façon-là.
Ah bon?
Oui, puis c'est ce que je trouve.
Elle fait pas seulement la traduction, mais aussi la prononciation, elle vous corrige là-dessus.
Ah, ben oui, puis il faut, moi, je veux dire, autant quand je travaille en anglais, autant quand. J'aime et j'ai besoin qu'on me corrige. Je pense que c'est la meilleure façon d'apprendre. Puis, on fait des erreurs, puis faut l'admettre, faut être bien avec ça.
Je lui dis bravo, mais si elle n'est pas en train de nous écouter. Samian, merci beaucoup. On tente tout doucement vers la fin de la conversation. On va passer de votre pièce encore. Les mots 0001, ça parle de quoi, brièvement?
J'ai vraiment pas compris votre question.
Les mots 0001, cette pièce musicale qu'on va passer maintenant.
Les mots?
Oui.
Ah, les mots, la chanson, écoutez, c'est une façon de trouver le double tranchant, en fait, du pouvoir des mots.
Oui.
Autant les mots peuvent détruire beaucoup de choses, mais en même temps, les mots peuvent construire énormément de choses.
Guérir
aussi, raconter nos histoires, et puis... Partager la poésie. Donc, les mots, pour moi, ça représente tout ça.
Merci beaucoup, Samian. Merci beaucoup.
Merci à vous.
Bonne continuation et au plaisir de se reparler.
Avec grand plaisir. Merci beaucoup.
Merci. Au revoir.
Na 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 Avec de simples mots, on a le pouvoir de tout détruire. Et avec les mêmes mots, on a le pouvoir de tout décrire. Les mots prônent la haine, mais ils chantent l'amour. Les mots n'ont peur de rien, car les mots ont de la bravoure. Les mots ont de la colère, mais ils ont une douceur. On se forge un caractère quand on chante nos douleurs. C'est grâce à l'écriture que je surmonte mes épreuves. Mot par mot, je suis en train de bâtir mon œuvre. Les mots ont du pouvoir, ils sont audacieux. Et on s'inspire d'eux, car ils sont courageux. Les mots ont de la tristesse, les mots ont une noblesse. Et ils se collent à ma vie, car les mots sont modestes. Les mots me crugent de l'intérieur, ils me font voyager en attendant un monde meilleur. C'est grâce aux mots que je raconte mon histoire. Les mots peuvent me guérir, les mots me donnent de l'espoir. Les mots chantent les drames, les mots viennent de l'âme. Les mots n'ont peur de rien, car les mots sont une arme.
Les mots chantent les drames, les mots viennent de l'âme. Les mots n'ont peur de rien, car les mots sont une arme.
Les mots chantent les drames, les mots viennent de l'âme. Les mots n'ont peur de rien, car les mots sont une arme.
Les mots chantent les drames, les mots viennent de l'âme. Les mots n'ont peur de rien, car les mots sont une arme.
Y'a les mots qui instruisent, détruisent, des mots qui méprisent, des mots qu'on utilise quand on veut se faire la bise. Y'a les mots qui prédisent, s'enlisent, les mots qu'on banalise, les mots qui nous divisent et les mots qui nous brisent. Y'a les mots qui s'entendent, qui se répandent, les mots qui prétendent, les mots qui nous offensent, c'est les mots plus tendres. Y'a les mots qu'on prononce avec prudence, c'est les mots qu'on lance, les mots qui nous dénoncent, ceux qui nous défendent. Y'a les mots qui blessent, qui fessent, les mots qui protestent, les mots d'ivresse remplis de promesses, qui blessent, grotesques. Les mots plus doux, les mots plus sales, les mots plus fous, les mots plus joyeux, les mots qui se cachent dans un journal, les mots qui parlent, les mots qui partent, scandale, les mots plus graves que ceux qu'on grave sur une pierre tombale, les mots qui pleurent, les mots du mal, les mots du cœur, le mot final, les maudits mots, les maudits mal.
Les mots chantent les drames, les mots viennent de l'âme. Les mots n'ont peur de rien, car les mots sont une arme. Les mots chantent les drames, les mots viennent de l'âme. Les mots n'ont peur de rien, car les mots sont une arme.
Les mots chantent les drames, les mots viennent de l'âme. Les mots n'ont peur de rien, car les mots sont une arme.
Les mots chantent les drames, les mots viennent de l'âme. Les mots n'ont peur de rien, car les mots sont une arme.
Les mots sont bohèmes, ils prônent le blasphème, ils chantent nos problèmes, mais les mots récitent nos poèmes. Les mots ont une devise, les mots ont plusieurs thèmes, et ils sauvent des vies, car ils donnent de l'oxygène. Les mots marquent le temps, racontent le présent, les mots s'envolent et nous éclairent en tombant. Les mots sont optimistes, ils pensent nos cicatrices, les mots nous font peur, car ils sont réalistes. Ils sont plutôt espiègles, les mots n'ont pas de règles, ils racontent nos vérités, car les mots sont intègres. Les mots valent mille images, s'expriment dans plusieurs langues, mes mots de la vie, car mes phrases sont vivantes. Ce qui m'inspire, c'est la vie que je respire. Les peines comme les sourires, la beauté de mes souvenirs. Et les mots m'ont appris qu'on se doit d'être sincère. Quand les mots sont du cœur, y'a pas que nous qu'on libère. Les mots chantent les drames, les mots viennent de l'âme. Les mots n'ont peur de rien, car les mots sont une arme.
Les mots chantent les drames, les mots viennent de l'âme. Les mots n'ont peur de rien, car les mots sont une arme.
Les mots chantent les drames, les mots viennent de l'âme. Les mots n'ont peur de rien, car les mots sont une arme.
Les mots chantent les drames, les mots viennent de l'âme. Les mots n'ont peur de rien, car les mots sont une arme.
Restez avec nous, regard croisé continue. À tout de suite.
Vous écoutez Regard croisé avec Fulgence Blas et Arlette Farah.
Alors avant d'écouter Denis Martin Chabot qui va être avec nous dans un instant, on va partir en musique avec Diogo Ramos qui nous chante Samba sans frontières.
La samba vient d'ailleurs, d'un sourire de nostalgie, c'est une forme de prière. La samba vient d'ici, la samba là-bas est
le
samba ici est là, si c'est le ou si c'est là, ce qui compte c'est samba. Oh le samba lélé, par ici, samba là-là, par là-bas, samba lélé. Par ici, samba là-là, par là-bas. Pour combler mon silence, les mots et les nuances, la paix en résonance, sans ambivalence.
Samba lélé, par ici, samba là-là, par là-bas.
La samba vient d'ici, de la mer de Gaspésie. C'est une vague d'espoir, une syncope du Brésil. Cette samba est en français, c'est aussi en portugais. Ça pourrait même être anglais, une samba sans frontières.
Samba lélé, par ici, samba là.
Martin Chabot, bonjour.
Bonjour Arlette.
Bonjour Denis Martin.
Bonjour Fulgence.
Denis Martin, tu vas nous faire, dans ta chronique, tu vas nous faire passer une entrevue que tu as eue hier, je crois.
Oui, c'est ça.
Explique-nous ce que c'est.
Alors voici, on va bientôt lancer, je vais quand même vous parler de mon billet ici, on va lancer bientôt la campagne de financement de Maison Placard le 1er novembre.
Oui.
Une des personnes qui travaille chez nous et qui est porte-parole de Maison Placard s'appelle Didier Leroy. Pourquoi je vous en parle? Didier a été des premières vagues des manifestants d'ACT UP Paris dans les années 90 lors des manifestations pour obtenir des médicaments pour le VIH. C'était une époque où il n'y avait rien, où personne ne s'occupait de rien. Vous vous rappelez le film 120 battements à la minute?
Oui.
Didier Leroy, lui, il a vécu ça dans les années 80-90. On va l'écouter.
D'accord, alors on l'écoute.
Je pense que je ne pouvais pas faire autrement. Excuse-moi l'expression, c'était marche ou crève à l'époque. Il faut se remettre dans le contexte des années 90. Années 90, le sida était considéré comme un pestiféré. Il n'y avait pas grand-chose sur le plan médical. Rappelez-vous, pour ceux qui ont connu cette période, il y avait quoi ? Il n'y avait que l'AZT, avec tous les effets que l'on connaît. Et moi, j'ai beaucoup de mes compagnons, malheureusement, qui en sont décédés. Alors, j'ai envie de te dire, pour répondre à ta question, c'est le mot « rage », mais « rage » vraiment en majuscule, parce que il y avait que ça à faire pour se faire entendre des politiques, pour se faire entendre pour que la science bouge, pour que les gens se bougent autour du VIH. Et c'est ce qui m'a poussé, en tout cas, moi, à être militant à ACT UP Paris dans les années 90.
C'était comment quand on se faisait dire, Didier, t'es séropositif et puis prépare ta succession, fais ton testament. Comment ça s'est passé pour toi, ça?
Écoute, ça s'est passé mal. Moi, j'ai deux expériences que j'ai envie deux anecdotes pas très marrantes, justement, qui m'ont poussé à ce militantisme et par rapport à cette notion de mort que tu es en train de parler là. C'est que bon, je travaillais dans un grand magasin, j'ai pas cité son nom, mais quand ils ont su que j'étais VIH, bon, déjà, on m'a mis dans un placard. On m'a mis, j'étais dans un service où après on m'a mis à part, seul, isolé. C'est pas une blague. Et on voulait me pousser à la démission. Et je l'ai pas fait. Heureusement, j'ai tenu bon. Mais c'était une période très dure. Et puis il faut pas oublier que VIH, maladie. Moi, je voulais devenir propriétaire. C'était tout un pataquès aussi à l'époque, parce que toutes les portes se fermaient au niveau des assurances. C'est vrai que quand tu vis avec le VIH, t'as une épée de Damoclès au-dessus de toi, déjà. en permanence. Mais en plus de ça, tu as tous les organismes, tout le monde te le fait bien comprendre que voilà, tu es un pestiféré. Et qu'au niveau de tes droits, eh bien, il y a beaucoup de choses où il faut se battre. Et c'est pour ça que je me suis battu et que je ne me suis pas laissé faire. Parce que sinon, je pense que je ne serais pas là en train de te parler.
Et toi, personnellement, Didier, est-ce que tu as eu peur? Est-ce que tu as eu peur à un moment donné où tu dis j'ai rien, j'ai plus rien devant moi, il n'y a pas de médicaments, j'ai une maladie qui va me tuer? Est-ce que, comment tu t'es. Je sais pas, est-ce que tu as eu peur?
J'ai eu peur depuis le début. J'ai eu peur depuis le moment où j'ai été rencontré par un docteur, ce n'était pas mon docteur habituel, qui m'a dit voilà, vous êtes VIH. Et puis, démerdez-vous, je suis ressorti. J'ai eu peur à partir de ce moment-là. Et heureusement que je n'étais pas tout seul, que j'étais accompagné, parce qu'à partir de ce moment-là, honnêtement, pour moi, VIH, c'était égal mort. Pour moi, ça y est, j'avais cette épée de Damoclès au-dessus de ma tête. Chaque jour, je me regardais dans le miroir. Je me suis dit, j'espère que j'ai rien, que j'ai pas le sarcome de Kaposi. C'était l'horreur. C'était tous les jours. C'était au jour le jour. Et je pense, et ça je ne l'ai jamais dit, qu'actuellement, j'ai encore les séquelles de ça. Je m'explique. C'est que quand j'ai appris la nouvelle, en fin 89, j'avais une rage de vivre. Et je voulais faire un maximum de choses. Et je m'aperçois que maintenant, je m'aperçois que je suis toujours comme ça, à vouloir vivre à 300 km/h par peur de ne pas faire telle ou telle chose. C'est fou quand même. Alors que maintenant, il y a une trithérapie, tout se passe bien. Maintenant, on est à l'époque de Egali, indétectable, égal intransmissible, mais n'empêche que voilà, il y a ces séquelles. Je pense que ces séquelles, en tant que personne qui vit avec le VIH, je ne suis pas le seul. C'était fou. C'était fou parce que, à chaque réunion d'ACT UP, on remplissait une carte postale à l'intention du président de la République parce qu'un de nos compagnons était mort. Et à l'époque, il faut se remettre dans le contexte, c'était les cercueils qui étaient plombés parce que personne au niveau des services funéraires voulait embaumer le corps ou quoi que ce soit. On était, et je le dis et je le pense sincèrement, on était des pestiférés. Et cette époque, il ne faut pas l'oublier. Il ne faut pas l'oublier.
Alors, Denis Martin, magnifique témoignage, il faut le dire. On se retrouve en train de parler. Il nous reste que deux minutes, mais on va quand même parler de cette pandémie qui était le VIH. Quel VIH
Et ça allait encore une pandémie, hein.
Pardon ?
C'est encore une pandémie.
Ça l'est encore, oui, qu'il est encore. C'est ce que j'ai dit, qu'il a été, qu'il est encore.
Il y a personnes qui vivent avec ça présentement sur la planète, et puis ça fait quelque chose comme peut-être jusqu'à 50 millions de morts. On ne sait pas, hein. C'est toujours difficile de déterminer le nombre de morts parce que dans beaucoup de pays, on n'arrive plus à faire le décompte, ce qui n'est pas différent de ce qu'on vit présentement avec la COVID.
Oui.
Ouais. Les parallèles sont là. Je suis biaisé parce que tu sais que je travaille pour Maison Plein Cœur et puis ça me tient à cœur, ça me permet de l'honneur de faire avancer la campagne de financement de cet organisme qui fait beaucoup de bien à Montréal. Mais je me disais, il faudrait peut-être entendre ce qu'on entendait à l'époque, ce qui n'est pas tout à fait différent de ce qu'on entend maintenant avec la COVID. Et il y a encore beaucoup de chemin à faire. Et Didier, alors c'est ça qui est extraordinaire, il joue à Montréal depuis quelques années, et puis il travaille, il est impliqué dans le milieu, puis il rappelle aux gens, il faut continuer de se battre, il ne faut pas retourner où on était, lorsque moi j'ai milité à ACT UP Paris.
D'accord. Mais de toute façon, en ce qui concerne le Maison Plein Cœur et ce qui va se passer le 1er novembre, on va te réentendre là-dessus à la fin du mois. Et puis peut-être avec un ou deux des animateurs qui seront dans le spectacle qui doit être fait aussi.
Oui, j'espère, oui.
Faut en reparler. En tout cas, c'était très, très intéressant de l'entendre se souvenir comme ça, parler de tout ça. J'ai eu des flashs d'amis qui effectivement se soignaient avec la ZT avant, donc c'était la seule chose qu'ils avaient. Alors que maintenant, ça va quand même bien mieux
beaucoup
de ce côté-là.
Beaucoup mieux, ça va vers beaucoup les injectables. Mieux. C'est une chose dont je devrais vous parler éventuellement. Bah, un nouveau traitement qui s'en vient.
Une prochaine fois, alors. Oui. Merci beaucoup, en tout cas, pour ce que tu nous as donné. Ça a été, c'était vraiment bien de l'entendre.
Moi, je reste sans mots. Hein.
Ça sera pour la prochaine fois, les mots.
Le poète reste
et puis, merci beaucoup pour tout ça.
Quoi.
Et puis on se revoit très bientôt.
Merci.
Et là on se quitte avec une très belle chanson de Ben, enfin qui sera interprétée par Ben Kid, Stand By Me.
Oui.
Voilà.
Gros bisous.
Gros bisous.
When the night has come and the land is dark, and the moon is the only light we'll see. No, I won't be afraid. Oh, I won't be afraid. Just as long as you stand by me. So, darling. Stand by me. If the sky that we look upon should tumble and fall, or the mountain should crumble to the sea, I won't cry, I won't cry. No, I won't shed a tear. Just as long as you stand by me. And darling, darling, stand by me. Oh, stand by me. Oh, stand now. Stand by me. Stand by me. Stand by me. Whenever you're in trouble, won't you stand by me? Oh, stand by me.
Okay. André Tessier, bonjour.
Bonjour André.
Ravi de faire votre connaissance. Alors, on va parler un peu et on va parler cartomancie.
Oui.
C'est comme ça qu'il faut le dire, hein?
Oui, appelez ça.
Alors, vous êtes cartomancienne parce que, je crois lire en tout cas dans votre dossier, que c'est parce que vous êtes profondément amoureuse de la nature humaine. Donc,
oui, ça c'est vrai. Dans le fond, je suis auteure et cartomancienne.
D'accord. Donc, vous avez commencé à apprendre à l'âge de 10 ans?
Oui, vers l'âge de 10 à 12 ans, j'ai appris à lire les cartes.
Chez une voisine?
En plein ça, oui. grâce à une femme qui restait à côté de chez moi, une femme âgée. C'était une femme qui avait appris dans sa famille des années 1800 comment lire l'avenir. Elle n'avait pas de mari, pas d'enfant. Elle avait tout montré comment lire dans les cartes. Et ça a commencé à l'âge de 12 ans, oui.
Alors, c'est pour ça que vous lui aviez... parce que là, on va parler d'un nouveau... Enfin, du renouvellement d'un jeu de tarot qui ressort, mais vous en aviez fait un pour elle, puisqu'elle s'appelait Estelle. Vous aviez fait le coffret d'Estelle.
Oui, c'est ça. Le deuxième jeu que j'avais fait dans les années 95-96 environ, se nommait le coffret d'Estelle à son mémoire, vu que cette femme-là m'avait montré à lire l'avenir et à aimer, à lire, tu sais, voir vraiment qu'est-ce qui se passait. Puis elle m'a tout montré ses secrets.
Alors là, vous nous dites que quand je lis, donc que vous faites votre premier jeu en 95 d'auto-divination.
Oui, oui. En 95, ça a été le premier jeu que j'avais sorti, c'était La Roue du Destin.
Oui.
Et dans la même année, ça avait été un succès. J'avais vendu au 150 000 copies rien qu'au Québec. J'avais sorti après, à sa mémoire, le coffret d'Estelle. Et après, ça c'est après les années suivantes, j'ai presque toujours sorti un jeu. Je suis rendue à mon septième jeu à ce moment.
Au septième, parce que là, c'est le Gitan qui est réédité cette fois-là, oui. Qui va venir, c'est ça, hein?
Oui, c'est ça. Le nouveau Gitan, il va sortir d'ici environ deux semaines dans toutes les librairies.
D'accord. Ouais, ça a été un gros succès.
Oh, vous êtes très gentil. C'est une nouvelle édition. Puis ça va être distribué par l'édition de Mortagne.
Alors, comment on explique ça, l'autodivination?
Bien, l'autodivination, le gitan, c'est que vous pouvez vous-même vous faire les cartes, le tarot, c'est vraiment du tarot. Et vous allez pouvoir faire les 12 maisons. Il y a une planche de jeu pour aller voir votre santé, vos amis, vos amours, aller voir les prédictions pour les 12 mois. Et tout le monde va être capable de se le faire. Ben, c'est un jeu qui est très simplifié, qui est accessible à tout le monde. Vous avez un livre qui explique toutes les maisons et tout ce que les cartes veulent dire. C'est en même temps de l'apprendre à lire votre avenir. Et qu'est-ce qui est très, très le fun dans ce jeu-là, c'est que vous pouvez poser des questions rapides, comme on dit aujourd'hui. Moi, j'aimerais savoir, on va dire, quelle question, je vais-tu me trouver un nouvel emploi? Il faut être assez direct. Les cartes peuvent vous répondre oui, très bientôt, vous allez vous trouver un nouveau travail. Vous avez tout dans le livre et dans le jeu.
Vous croyez que les cartes répondent sur un oui ou non?
Vous avez deux jeux. Vous avez le jeu de l'avenir pour les 12 mois. OK?
Oui.
Ça, c'est pas les oui ou les non. Ça va vous prévenir sur le travail, qu'est-ce qui s'en vient, la santé. C'est un résumé de l'année, qu'est-ce qui s'en vient dans votre année à vous.
D'accord.
Vous pouvez le faire aussi aux autres. Mais vous avez aussi le jeu des questions. C'est que vous posez une question directe aux cartes. Vous avez des cartes à brasser. Vous pigez quatre cartes et vous additionnez vos quatre chiffres sur les cartes. Et dans le livre, il y a des chiffres qui répondent à votre question si c'est oui ou c'est non.
Ah, d'accord.
Mais c'est bien aimé. C'est vraiment... moi, depuis le temps, je le fais, ça fait 37 ans, et je me sers toujours de cette méthode-là. Et le monde me dit toujours que ça arrive vraiment, vraiment. C'est vraiment amusant aussi. T'sais, on dit on va le faire par plaisir, mais on peut le faire aussi pour le vrai. C'est sûr qu'on dit c'est le fun, on va voir si ça arrive, mais j'ai des bons commentaires.
C'est des bons commentaires, parce que j'ai vu que vous en aviez fait des animatrices aussi.
Oui, oui, oui. Oui, et j'aime ça, le faire essayer au monde. Comme vous, vous pourriez me poser une question. C'est sûr, là, vous n'avez pas les cartes devant vous, hein?
Non. Non, ça sera pour une prochaine fois où on peut recevoir le monde en studio.
Ben oui!
Ça sera plus facile.
Ben oui.
Vous avez...
Ben oui,
oui, allez-y. Non, j'allais dire aussi, vous avez écrit un ouvrage qui s'appelle Le guide du tarot divinatoire simplifié. C'est
le
quoi?
Le tarot simplifié, c'est ça. C'est parce que ça dépend. J'ai fait la plupart des jeux que j'ai faits, c'est tous des jeux. J'en ai fait plusieurs. C'est tous des jeux qui, c'est tout simplifié parce que plusieurs personnes me disent c'est difficile de se lire les cartes. Mais tous mes jeux, le monde est capable de s'y faire parce que je l'ai fait simplifier pour que tu puisses aller voir ta réponse. Et sur la carte, c'est marqué si c'est positif ou négatif.
D'accord.
Dans le domaine où que tu as mis la carte. C'est tous des outils pour t'aider à apprendre aussi à lire les cartes de tarot.
Oui, je comprends.
C'est pour ça.
Mais faut pas se baser que là-dessus, mais ça peut être une aide dans la vie de tous les jours.
Oui, mais aussi, il faut se fier aussi à notre intuition.
Oui, ça c'est vrai.
Les cartes, c'est comme un outil.
Oui.
C'est comme un outil qui t'aide à ouvrir une porte. Oui. Et après, il faut y aller ressentir qu'est-ce que tu ressens vraiment vis-à-vis de la personne qui est devant toi.
Oui, c'est
ça. Parce que moi, à force de le faire, c'est même surprenant, c'est que vous allez peut-être trouver ça drôle, c'était pas rien que les cartes là, qui me parlaient. C'était un outil, les cartes, oui. mais il y avait une porte qui s'ouvrait, puis je ressentais des fois des messages de la personne en face de moi. Je ressentais une personne qui était décédée et je ressentais des messages. Mais ça me prenait mon jeu pour commencer à ouvrir.
Je comprends, pour encadrer.
Oui, c'est comme une porte que tu rouvres. Oui. Plus que tu rentres dans tes messages et tu ressens, plus que tu as des messages pour la personne en face de toi. L'intuition aussi, c'est bien important de ressentir.
Comprenez-vous? Ça.
Comme moi, je suis meilleure avec une personne que je ne connais pas du tout parce que mon intuition va embarquer plus qu'une personne que je connais.
Oui, je peux comprendre ça. Oui, tout à fait. Tout
oui,
à
parce
fait.
Que si tu connais la personne, c'est...
On sait déjà son histoire, ça peut oui. venir troubler.
Oui, en plein ça. Et plus tu ne connais pas la personne, plus que ton intuition va l'embarquer.
Alors, dans le temps qui nous est imparti, là, les quelques minutes qui restent, on va parler donc du Gitan. Donc, c'est une réédition. Qu'est-ce que ça a de différent de la première édition?
OK. La nouvelle édition est vraiment plus belle. Les cartes sont plus belles. Le coffret aussi est plus petit. L'image et même les cartes sont... L'image sont plus colorées. Ça vaut vraiment la peine d'aller chercher, comme je vous dis. L'éditrice, ben, c'est moi, mais la maison d'édition qui distribue, ils m'ont dit que dans 2 semaines ou en fin d'octobre, il va être distribué à toutes les librairies au Québec et même ils peuvent le commander directement aux éditions de Mortagne.
Oui, aux éditions de Mortagne.
Oui, c'est un jeu que tu peux, comme je disais, lire ton avenir dans les 12 mois qui s'en viennent, bon. Dans tous les domaines, et autant que tu peux poser des questions directes. Oh, aussi, vous avez aussi le jeu de la cartomancie dedans. Et le jeu de la cartomancie, c'est pour les jours à venir. C'est plus vite que le tarot pour l'année.
Oui. Bon, ben, je regarderai ça alors plus concrètement après. Merci beaucoup pour cette entrevue. Et puis, il faut savoir, je dis aussi qu'on peut aller dans un restaurant qui est situé à l'Assomption.
Oui,
le Bella Stella où on peut manger bien et après on a quand même une consultation de 15 minutes avec l'auteur, ça c'est chouette.
Ben oui, à plein ça. Ça donc, va me faire plaisir de vous recevoir.
Entendu, ben merci beaucoup et puis donc c'est Le Gitan pour ceux qui connaissent déjà ou ceux qui connaissent pas encore, c'est le dernier né de cette collection et c'est votre petit préféré aussi.
Oui, donc, le Gitan, c'est mon préféré. Oh, oui.
On va voir ça très bientôt puisqu'il sort dans les librairies si jamais les librairies rouvrent ou alors on pourra le commander aussi sur Internet.
Mais c'est très gentil à vous.
Merci beaucoup, André.
Et merci, bonne journée à vous.
Bonne journée, au revoir.
Merci, au revoir.
Alors...
Chérie, notre maison est laissée à l'abandon. La porte signe d'abroche, les murs sont croches, le perron s'écroule, la toiture coule. Oh chérie, notre maison est laissée à l'abandon. Tu sais veux dire laissée à l'abandon. Si on a un grand grenier, plein de souvenirs en poussière, on les a mis dans des boîtes, on les sort les jours de fête. On a un grand salon avec chacun sa télévision. Oh chérie, notre maison est laissée à l'abandon. Tu veux dire laissée à l'abandon. Oh chérie, notre maison est laissée à l'abandon. Oh chérie, notre maison est laissée à l'abandon. La porte signe la broche, les murs sont croches, les perrons s'écroulent, la toiture coule. Oh chérie, notre maison est laissée à l'abandon. Tu veux dire laissée à l'abandon. On a un grand comptoir où traîne notre histoire. La vaisselle est empilée, ça fait longtemps qu'on l'a pas lavé. Si on a une belle grande table avec chacun son portable. Oh chérie, notre maison est laissée à l'abandon. Tu veux dire laissée à l'abandon.
maison. Laisser l'abandon, ça veut dire laisser l'abandon, ça veut dire laisser l'abandon, ça veut dire.
C'était dans le chat, ça veut dire. Voilà, ça y est, on est arrivé au bout de l'émission. Et on va se retrouver demain. Donc, merci à tous ceux qui ont été là.
On dit merci, merci à Samiane.
Oui. Merci à André, merci à Denis Martin. Oui. Merci aussi à toi, Maurice, merci et à toutes Maurice, celles et ceux qui nous ont écoutés.
Et puis nous, on se retrouve demain.
Et nous, on se retrouve demain. Merci, Fulgence. Au revoir.
Merci à toi. Et merci à nos auditeurs.
À demain.
À demain.
Au revoir. Ciao.